France Inter.
Technoférence, non, on n'est plus disponible. Notre attention est attirée ailleurs. Ils sont sur leur écran et ils ne font plus attention à ce qui les entoure.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un 325e numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui renifle l'air du temps, ce qui n'est pas facile car dernièrement, il faut réussir à passer outre l'odeur de maroilles qui émane encore des vêtements de Manon depuis notre déloc à Lille vendredi dernier. Mais on y arrive quand même et aujourd'hui, à l'occasion de la journée spéciale smartphone tous accro sur France Inter, on va zoomer sur un mot que vous ne connaissez pas et qui pourtant vous concerne puisqu'il nous concerne tous, la technoférence. Technologie, interférence, vous avez l'idée. Téléphone, appli, notification, montre connectée, partout, tout le temps, on va parler de ces murs que dressent entre nous les technologies qui, au lieu de nous rapprocher, nous éloignent. Un thème que j'ai eu envie de traiter après notre dernier déj d'équipe chez Blériot. Jadis, temple de la convivialité, ce midi-là, William ne nous a pas reconnus.
Alors les copains, qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui là ? J'ai un petit coteau du Lyonnais là, qu'un vigneron m'avait envoyé pour vous. Bon, on l'a bu avec Christine, mais il me reste un Saint-Amour, là, bien sur les fruits, bien comme il faut.
Oui, oh, mets-nous ce que tu veux, William, répondait froidement Cyril. Jamais Cyril n'avait répondu froidement à William. Une fois, il y avait eu une légère altercation au sujet d'un tote bag, mais jamais plus. Mais voilà, ce jour-là, chaque membre de l'équipe de Zoom Zoom était dans sa bulle, scotché à son smartphone, happé par une avalanche de notifications personnalisées, portable de Quentin... Alerte automoto. Pierre Gasly clash violemment Esteban Ocon au micro de Jordan Deluxe. Portable de Manon... Alerte Cofidis. Attention, tout crédit revolving vous engage et doit être remboursé. Portable de Cyril. Pour vous remercier de votre fidélité, la Maison de la Truffe vous offre 10% de réduction sur votre prochaine commande. Ah ça c'est moi. Pour vous remercier de votre fidélité, Qatar Airways vous... Oh oui, non, ça c'est perso. Ça n'intéresse pas les gens. Bref, la démonstration est faite. À cause de nos satanés smartphones, de beaux moments de convivialité se perdent et chacun reste coincé dans son petit monde autour de ses petits centres d'intérêt. Alors sommes-nous tous victimes de technoférence ?
Vous êtes surtout sacrément cons les gars. Buvez un coup et arrêtez de vous prendre la tête avec des mots qui n'existent pas.
Merci William, on va y penser. Zoom Zoom Zen. C'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Marie Danet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marie, vous êtes maîtresse de conférences en psychologie du développement et psychologue clinicienne. Vous travaillez notamment sur les liens entre l'usage du numérique et nos comportements socio-émotionnels. Vous allez donc nous expliquer les dangers de cette technoférence. Juste le temps de saluer mes fidèles équipiers, à commencer par celle pour qui le paiement en 25 fois sans frais a été inventé. La Bernard Madoff du shopping. Un jour viendra, sa pyramide de Ponzi s'effondrera. Elle sera contrainte de partir en cavale pour échapper à ses créanciers. Nous, on sera obligé de demander à Cléo de la remplacer au débeauté dans l'exercice de la veille sanitaire. Bon, par chance, au débeauté, Cléo aura déjà écrit une veille sanitaire au cas où, comme d'habitude. Mais quand même, bonjour Manon Mariani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Manon, programme aujourd'hui de votre veille sanitaire.
Mr Beast, le youtubeur le plus suivi au monde, va pour la première fois collaborer avec une plateforme de SVOD, Prime Video. C'est inédit et ça renforce surtout le positionnement d'Amazon qui s'allie de plus en plus avec les créateurs de contenu. Je vous explique pourquoi ce changement arrive maintenant dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Marie, lui, il est encore relativement immunisé contre la technoférence. Ce qui le sauve, c'est son goût de l'autre. Son goût de l'humain, son goût de la rencontre humaine, physique, parfois charnelle. Avec l'auditeur, c'est arrivé. Chaque jour, il va à la rencontre des passants et il leur fait lire sur son smartphone quand même, hein, preuve que personne n'y échappe, notre mot du jour.
Ah oui, on se modernise. Hein, jadis, il y avait une pancarte que Cyril gravait au couteau. Évidemment, je montrais dans la rue. Aujourd'hui, vous avez raison, je fais défiler les mots Zoom Zoom Zen sur un smartphone. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un mot dans la rue qui peut qualifier ce qu'on peut tous ressentir lors d'un déj pro, d'un verre entre amis ou une soirée. Avec l'être aimé, les conversations sont interrompues par le portable et vous n'en pouvez plus.
Vers 16h30, votre shot culturel de culture générale vous attend. Où avez-vous appris que Napoléon en fait n'était pas petit et que en fait Quentin était grand ? Dans le Zoom Zoom Test, bien sûr. Un quiz spécial aujourd'hui autour des plus folles histoires des smartphones. En fin d'émission, un des pionniers de la perche à selfie, Yann Marguet, nous rejoindra. Mais d'abord, Marie Danet, nous allons passer une heure ensemble. Quels conseils vous donneriez déjà à celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent éviter d'être technoférencés ? Je ne sais pas si on dit comme ça.
Alors, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais peut-être qu'on peut leur proposer de ne pas technoférencer eux-mêmes, déjà pour commencer, puisque finalement, on se rend compte que c'est des comportements que tout à chacun, on va avoir dans nos interactions au quotidien. Et donc, peut-être regarder ses propres usages avant d'aller voir ceux des autres.
Il faut déjà s'examiner soi-même avant de critiquer son voisin. Et ceux qui gardent leur téléphone à midi à table quand on déjeune, Manon.
Balayer devant sa porte.
En bout de table, il est la preuve vivante que la technoférence n'épargne pas les boomers. Puisque non seulement il passe un temps fou sur son téléphone cellulaire, surtout depuis qu'il a mis l'option grande police.
Oh non.
Mais il fait aussi partie.
C'est vrai,
fait
ça.
Il fait aussi partie de ces gens qui ont installé WhatsApp sur leur écran d'ordinateur parce que, je cite, c'est plus confortable. Sont généralement les mêmes qui installent les petites boules sur leur siège auto pour ménager les lombaires. Vous savez. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
Alors Cyril, dites-nous la technoférence, d'où ça sort?
Eh bien, c'est à un certain Mac Daniel qu'on doit ce terme. Mac Daniel qui n'a aucun lien avec Mac Lesguy, ni Mac Chicken, ni un quelconque appareil de l'univers Apple. Mac Daniel, en fait, c'est un créateur de contenu, un de ceux dont nous parle la Marianoche dans ses veilles sanitaires. Mac Daniel s'appelle en fait Daniel McDonald, et là encore, aucun lien avec Ronald.
Oula.
D'ailleurs, vous saurez qu'on l'appelle Mac Daniel, mais aussi Daniel Mac. Et si vous cherchez sur les réseaux, son petit nom, c'est It Daniel Mac. Bref, ce qui a fait le succès de ce Mac Daniel ou Daniel Mac, ce sont des vidéos où il arrête des gens dans la rue qui conduisent des voitures de luxe, et à qui il pose la question « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Une sorte de Quentin lui, mais avec 14 millions d'abonnés à son compte TikTok.
Oui. Ça fait une différence.
Comme le truc, comme
de 14 millions.
Voilà, 14 millions en plus. Comme le truc a son petit succès, il croise aussi des célébrités, par exemple l'actrice Hélène Mirren, qui l'a emmené faire un tour dans sa McLaren 600LT, prix d'achat de la bagnole, 270 000 $.
Et donc, si je vous suis, c'est à lui qu'on doit notre mot du jour.
Pas du tout. Lui, c'est juste un amateur de belles cylindrées. Le véritable inventeur de technoférence, c'est un chercheur en psychologie familiale et il s'appelle Brandon McDaniel. Afin d'être exhaustif, lui non plus, n'a aucun lien avec les hamburgers et autres gars qui font de la pub pour du dentifrice. L'histoire ne dit pas si ce Brandon aime les belles bagnoles et convenons-en, on s'en moque. C'est en 2012 que Brandon McDaniel forge ce concept et voilà comment il le définit. Ce sont les interruptions quotidiennes des interactions interpersonnelles ou du temps passé ensemble qui se produisent à cause des appareils de technologie numérique et mobile. Bref, chaque fois que votre ordinateur, votre smartphone, votre montre connectée, j'ai vu que vous en aviez une Marie Danet, ou même que votre sextoy connecté vous sort d'une interaction in real life.
Là, vous n'avez rien vu sur personne, parce que comme vous donnez des exemples, ça peut devenir...
On avait peur de la blague.
J'avais très peur de la blague suivante, donc je préférais l'anticiper.
Bref, à chaque fois qu'un appareil vibre, vous vous faites techno-interférer. Quant à savoir pourquoi je vous ai fait tout un laïus Daniel Mac, qui n'a rien à voir avec tout ça, je pourrais vous parler de cette terrible technoférence qui m'est arrivée en préparant ce DCS. Je pourrais, mais je le ferai pas. Alors,
super.
Est-ce qu'il faut supprimer tous nos objets connectés pour nous reconnecter avec la vraie vie? Qui est touché par la technoférence? Comment s'en prémunir? À quel âge ça survient? Est-ce que Mathieu Noël apparaîtra dans un prochain épisode de Daniel Mac au volant de son Range Rover bien polluant? Est-ce que ce DCS sent un peu l'arnaque? Oui, mais je suis là pour cette émission. Quant au reste, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Voilà qui mérite, je crois, notre fameux jingle bruité à la bouche qu'on utilise uniquement après les 12 sorts d'exception.
Le 12 sort, un vrai trésor, on en veut encore,
Cyril Lacarrière.
Bienvenue Marie.
Marie, au secours, sortez-moi de là, Marie, ils sont devenus fous. Ce terme de technoférence, Marie Danet, a donc une grosse dizaine d'années. En fait, il a émergé avec les smartphones. Il faut bien pointer du doigt l'accusé en chef, les smartphones, c'est la cause principale de cette technoférence. Sans eux, il n'y a pas de technoférence.
Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, ce sont des objets qui attirent beaucoup notre attention, mais en même temps, ce sont des objets, et donc on décide de les utiliser ou de ne pas les utiliser.
Ah oui, on est responsable.
Donc,
oui, ça
voilà,
c'est sûr.
Il faut toujours faire attention à ne pas accuser l'outil à tort. Et en fait, là où on peut avoir du mal parfois un petit peu à ne pas les utiliser, c'est qu'on peut recevoir un certain nombre de notifications, on peut être intéressé de regarder ce qui se passe. On a notamment le concept du faux mot, le fear of missing out. Et oui, est-ce qu'on va pas rater un truc exceptionnel dans la seconde qui suit? Bon, en vrai, non.
C'est important de mentionner notre responsabilité personnelle quand même. On peut tous, même si on a tous des notifications, on peut désactiver chacune de ces notifications. Il n'y a pas d'appli où les notifications sont obligatoires. Il faut quand même le rappeler.
Non, on peut en fait complètement désactiver les notifications, décider de ranger son téléphone quand on est à table avec des amis, avec sa famille. Hormis si on est chirurgien cardiaque, auquel cas on a une bonne excuse, on n'a aucune nécessité de garder son téléphone en permanence.
Il n'y avait pas ce genre d'interférence avant l'apparition de tous ces objets connectés. Qu'est-ce qui venait perturber nos vies sociales jadis ? Parce qu'il y en a une qui n'était pas parfait jadis non plus.
Oui, bien sûr. Bah, avant, il y avait la télévision qui a déjà été... alors, tous les travaux justement sur ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler la technoférence ont commencé par la télévision et notamment sur le langage des enfants. On a beaucoup étudié l'impact que pouvait avoir la télévision en bruit de fond, par exemple, dans les familles, sur l'impact du langage. Et donc voilà, il y avait la télévision par exemple, mais on pouvait aussi s'ennuyer et ne pas parler avec les gens avec qui on était si on n'avait pas envie d'être avec eux.
Pardon Marie, mais on sait ce qu'elles ont donné ces études ? Qu'est-ce qu'on dit par exemple des enfants des années 80 ? J'ai envie de citer mon exemple, qui ont grandi avec Dragon Ball en fond sonore. On disait, mon père me disait que j'allais devenir débile. Oui. Alors bon, il a eu raison dans mon cas personnel, mais pour la plupart des gens au sens large, les études ont montré quelque chose ?
Alors, ce qui est vraiment difficile avec l'étude sur les écrans, c'est d'isoler les effets, puisqu'en fait, les écrans surviennent dans un contexte avec... les interactions peuvent être interrompues par les écrans, mais peuvent aussi être interrompues par le fait que on n'a pas envie de communiquer avec l'autre, on n'a pas forcément beaucoup de mots de vocabulaire, donc ça va aussi jouer sur le développement en fait de l'individu au sens large, et c'est ce qui est vraiment compliqué avec l'étude sur les écrans, c'est compliqué d'isoler les effets.
Il y a trop de paramètres. Certains d'entre vous diront que c'est trop tôt, d'autres qu'il était temps. Voici l'ISO, About Damn Time sur Inter.
Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. 'Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Journée spéciale, tous accros au smartphone. Comment dompter nos écrans sur Inter cet après-midi quand les écrans nous éloignent au lieu de nous rapprocher? Zoom aujourd'hui avec vous, Marie Danet, spécialiste en psychologie du développement, sur ce qu'on appelle la technoférence. Alors, selon Santé publique France, les adultes passent en moyenne 5 heures par jour sur un outil numérique, 12 pour Manon. Qu'est-ce qu'ils font en priorité? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font? On sait combien de temps ils passent, mais qu'est-ce qu'ils y font?
Alors, ça va beaucoup dépendre de la catégorie socio-professionnelle, notamment les cadres, en particulier après le Covid. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus de temps sur les écrans parce qu'il y a une multiplication du télétravail. Donc, il y a en même temps un usage professionnel mixé à un usage de loisir. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui va être utilitaire pour acheter des choses en ligne, les billets de train, machin. Et après, il y a d'autres catégories où il va y avoir essentiellement un usage plus récréatif et du coup, qui vont avoir aussi moins de consommation d'écran que les cadres.
Alors, on va parler
d'information aussi.
On va parler un peu plus tard dans l'émission de ce que font les ados avec leur écran. Est-ce qu'ils sont pas premiers responsables, les ados, en fait? On les pointe toujours du doigt, mais c'est quand même les adultes qui sont beaucoup accros déjà au téléphone, et ils ont un discours un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'ils disent à leurs ados et à leurs enfants, attention, le portable, il faut arrête d'être devant ton écran, mais eux-mêmes le sont. On est déjà dans cette génération où les parents eux-mêmes sont accros aux écrans. Ça devient très compliqué de faire de la pédagogie.
Oui, alors, le terme accro, c'est peut-être pas forcément le terme idéal, mais par contre, c'est vrai que les adultes sont les exemples des enfants. Les enfants, comme les ados, apprennent essentiellement par observation et plus que par le discours. C'est-à-dire que quand on leur dit « fais ça », mais qu'on fait le contraire, ils vont faire ce que nous on fait et pas ce qu'on dit.
Manon.
C'est dû au fait aussi que les enfants et les ados ont des smartphones beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, ça n'existait même pas à notre époque.
Oui, l'âge moyen d'acquisition du premier téléphone aujourd'hui en France est aux alentours de 9 ans et demi à peu près. Et il faut savoir qu'à peu près presque la moitié des 6-10 ans sont équipés d'un smartphone.
Des 6-10 ans?
D'un smartphone, où on peut avoir des applications, etc. Pas dans Nokia 3310.
Mais que pour être sur des applications, parce qu'il faut un numéro de téléphone, il faut un abonnement, ou c'est vraiment l'utilisation encore du téléphone, ou c'est juste un support numérique en plus?
Alors, tout dépend en fait de l'accompagnement qui va être fait par les parents, c'est-à-dire que là c'est important que les parents jouent un rôle d'éducation et d'accompagnement des enfants, puisque on peut effectivement utiliser un smartphone pour faire essentiellement de la messagerie ou des appels et éventuellement un petit peu de réseau social, même si normalement les réseaux sociaux ne sont autorisés qu'à partir de l'âge de 13 ans. Malgré tout, les enfants, finalement, quand il n'y a pas beaucoup d'accompagnement parental, peuvent avoir des applications beaucoup plus précocement que l'âge légal.
Alors, le lien parent-enfant, il est affecté par cette interférence technologique dont on parle cet après-midi. Dans un rapport publié déjà en 2017, c'est pas hier, vous estimez que 10% des parents affirment que leurs enfants de 6 à 12 ans se plaignent de ne pas être écoutés. 40% des parents se voient reprocher par leurs enfants de trop utiliser les outils numériques. Est-ce que ça change quelque chose dans leur utilisation de leur smartphone?
Alors, les enfants parfois s'autorisent à le dire, mais parfois ne s'autorisent pas non plus à le dire. Et ça va beaucoup dépendre de la relation parent-enfant qui préexiste. Finalement, les outils numériques peuvent impacter la relation enfant, mais c'est surtout la relation enfant qui impacte la façon dont la famille va utiliser les outils numériques. Dans une famille où on n'a pas envie d'interagir ensemble, on peut facilement utiliser le téléphone ou autre pour faire autre chose que de parler avec les autres. Et dans une famille où il peut y avoir un peu plus d'interaction, de communication, on pourra avoir plus de facilité à laisser le téléphone. Il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu, comme l'état émotionnel aussi, qu'on peut avoir à un moment donné.
Moi, ce qui me fait peur, Marie, j'ai l'impression même quand on est bien intentionné, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, en fait. On se rend pas, comme c'est relativement nouveau à l'échelle de l'histoire, ces smartphones et notre présence sur les écrans constante, en tant que parent, même éduqué, même voulant faire le mieux possible pour nos enfants, on a tendance à oublier, comme on vit avec ces trucs-là dans la main toute la journée, et quand on est avec eux, on oublie qu'il faut vraiment les poser dans un coin, parce que l'enfant a besoin d'interaction. On ne parle plus des ados, là, mais dans la petite enfance, il y a un besoin d'échange.
Bien sûr. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est en fait avoir, ce que je disais tout à l'heure, des petites dizaines de vie en se disant, quand je partage un temps de jeu avec mon enfant, même si c'est pas un temps très long, ça va être un temps qualitatif. Et pendant ce temps-là, où je désactive mes notifications, où je laisse le téléphone dans une autre pièce, sauf en cas d'urgence ou des choses comme ça. Mais on peut se dire dans des temps de jeu, dans des temps de repas surtout, à table vraiment, c'est important que les parents n'aient pas le téléphone, parce que ça permet aussi à l'enfant de comprendre que c'est quand on est avec les autres, on est avec les autres, et que le téléphone n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là.
Alors, vous commencez à le comprendre, chers auditeurs, si vous nous suivez. Sa collaboration à notre émission n'est qu'une activité parmi d'autres, dans la galaxie de la Lui Incorporated. La holding chapeautant la cinquantaine de sociétés écrans créées par Quentin pour échapper à l'URSSAF. Plus ça va, moins il s'en cache. D'ailleurs, par exemple, il nous a avoué avoir commencé à enregistrer son micro-trottoir du jour en marge d'une conférence de presse pour le Grand Prix Moto de France, à qui il facture on ne sait quoi. Vous étiez soi-disant invité par Canal+.
Pas soi-disant, j'étais invité par Canal+.
Très bien, très bien.
Partie de ce qu'on appelle la grande famille de la moto française, non, je plaisante. Et alors que je suis au milieu, justement, mais non, c'était juste une conférence de presse, donc je suis au milieu de journalistes sportifs et des consultants, ce trentenaire écoute France Inter tout le temps, de la matinale à Fabienne Synthès, avec ses cheveux poivre et sel, il s'approche du micro, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Louis Rossi, j'ai 34 ans, je suis pilote de moto et consultant pour Canal+, je commente les Grands Prix. C'est incroyable, non ?
C'est un peu mon rêve.
Mais moi aussi, c'est mon rêve, c'est de faire ce que tu fais. Bah ouais, on change. Vis ma vie, quoi.
Pas de problème. Et visiblement, même pas besoin de lui expliquer le principe même de Zoom Zoom Zen.
Oh non, pas besoin, je le connais. Je pourrais même l'expliquer aux autres.
C'est quoi ?
C'est prendre un mot, on change tous les jours et ensuite on décrypte ce mot.
Ah. Le mot du jour ?
Vas-y, mais je suis pas sûr de le comprendre. La technoférence. Qu'est-ce donc ? Se définit comme le phénomène des interruptions quotidiennes dans les interactions en face à face en raison de dispositifs technologiques. Donc j'imagine les portables, hein. Non, clairement, moi ça me gonfle. J'aime pas ça et c'est vrai que quand quelqu'un fait ça, ça me met mal à l'aise. Si je connais bien la personne, je dis voilà, pose ton portable deux secondes et on est ensemble, quoi.
Et c'est jamais facile, mais alors est-ce que ça fait de Louis un réac du portable ?
Faut pas être trop grave non plus, quoi. Y a pas que du mauvais. Maintenant, je pense que le problème quand on est asphyxié par ça, c'est qu'en fait, on se raconte moins de choses. Et on nous raconte plus de choses, on a moins de débats, on est tout le temps interrompu, enfin, quelque part on est de plus en plus en surface.
Et on se raconte de moins en moins d'histoires, c'est aussi le cas dans le couple.
Quand je suis avec elle, on est au resto, je mets mon portable à l'envers et je le regarde pas.
Et elle ?
Pareil. Alors des fois on avait toujours une excuse pour dire ouais mais c'est important, ouais mais c'est le boulot, etc. Alors qu'en fait, c'est pas grave, on peut s'interrompre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure. C'est une règle qu'on s'est fixée, on n'a plus nos téléphones quand on bouffe.
Je sors du bâtiment Canal+, et sur le parvis, elle est perchée sur son vélo électrique avec son imper, son sac anti-pluie, son maquillage bleu autour des yeux, assorti à ses mèches de cheveux. Wow. Cassandra est à la bourre.
Ouais, de ouf.
Vous avez quel âge, Cassandra ?
28 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Maquilleuse.
À la télé ?
Ouais, à côté, là, ouais. Enfin, à côté, à Canal, quoi.
Ah ouais.
La technoférence.
C'est quoi, la technoférence ?
Oh là là, moi, c'est un mélange de conférence et de tectonique, hein.
Bienvenue à la 17e conférence sur la tectonique. On reçoit cette année une fidèle de chez Fidèle. Elle n'a manqué aucune édition depuis 2007. Manon Mariani. Bon, je m'égare un peu. On revient à Cassandra, qui est maquilleuse. Donc, elle dit qu'elle fait attention à ne pas laisser son téléphone interrompre un moment entre amis. Mais
c'est vrai que quand c'est pour le boulot ou des choses urgentes, bah, je vais dire oh, excuse-moi, je dois vraiment répondre à un appel.
Ouais, mais...
Bah, ça dit que tu es moins important que mon appel. Réellement, on va pas se mentir. Et franchement, c'est la vérité. Ah, si c'est pour avoir de l'argent, oui, clairement, il y a des interruptions. On va pas se mentir.
Est-ce que ça l'attriste pas un peu, ce constat ?
C'est triste. Et moi, franchement, tu vois, par rapport à mon métier, eh bah, ça me saoule que les gens soient sur leur téléphone comme ça. Genre, ils baissent la tête, moi, j'essaye de les maquiller. Et c'est une galère. Franchement, c'est chiant.
Et je quitte Canal+ complètement, là. Mais comme dirait Mathieu, n'insultons pas l'avenir. Je longe la rue Camille Desmoulins. Ses cinq copines sortent de leur prépa art plastique.
Bonjour.
C'est quoi vos prénoms ?
Mélissa.
Grâce.
Mar.
Bertie.
Technoférence. Je parle à quelqu'un et sa personne est sur son téléphone ou en train de répondre au message de quelqu'un d'autre. Et du coup, t'as jamais... Enfin, c'est rare de trouver un moment où t'as vraiment l'impression d'être avec quelqu'un. Moi, un truc, souvent, c'est... Je parle à quelqu'un et en fait, je remarque qu'elle a des AirPods. Ok, en fait, elle est en train d'écouter de la musique à côté. Et du coup, il y a un sort de décalage de... Elle se concentre qu'à moitié sur ce que je lui dis.
Ah, et ça donne sans doute des grands moments de solitude. Je leur demande pour elle ce qui provoque ces interruptions. Alors, Bertie, pense à quelque chose.
Ou même, on remarque qu'en fait, on n'arrive plus à se concentrer sur une seule chose. On a tout le temps besoin d'être stimulé par plein d'autres choses tout le temps. Et je pense que ça aussi, ça vient par exemple des réseaux sociaux. Sur Insta, on scroll, on a une quantité d'informations à la minute, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une seule conversation.
Parce que c'est chiant.
Ah oui, c'est chiant. Voilà, ça, on s'ennuie, quoi.
Allez, les verres entre amis sont-ils devenus chiants à ce point ? Alors, dans ce cas, deux solutions. Soit changer de verre, soit changer d'amis. Manon a pris la première option. Dernière rencontre, elle attend le bus sous son parapluie.
Bonjour, je m'appelle Viviane et j'ai 70 ans. Technoférence.
C'est quand on n'entend pas bien à la radio quelque chose, il y a des interférences.
Oui, alors merci Viviane. Ici le RTF, Viviane, ça marche, ça fonctionne.
Ça va pas, nous foutez Viviane.
Non,
non, mais ça marche mieux aujourd'hui.
J'aimerais vous y voir, vous, avec 70 ans.
Nous, non, je lui explique. Notre mot du jour, la technoférence, elle a évidemment remarqué de quoi on parle aujourd'hui.
On n'est plus disponible, notre attention est attirée ailleurs. Ils sont sur leur écran et ils ne font plus attention à ce qui les entoure. Si c'est contrôlé, ça va, parce qu'on ne peut pas aller contre le progrès. Mais bon, faut aussi mettre de temps en temps un stop et puis faire autre chose que d'être sur son portable. Lire, se promener, faire plein d'autres choses.
Et peut-être pas emmener le portable avec nous, quoi.
Non, pas toujours. On peut l'éteindre.
Et quand vous le comprenez, ce terme prend tout son sens. Tout de suite, il met un mot sur un ressenti, un malaise, une gêne dans nos interactions, nos échanges pro ou même nos rendez-vous amicaux. Parlons-en, disons-le nous et écoutons Viviane peut-être. Pour restreindre le portable, il suffit de l'éteindre.
Vous devriez d'ailleurs écouter un peu plus Viviane. Vous démarrez avec moins un point dans le quiz pour cette séquence agiste, n'est-ce pas, mon cher Quentin? La technoférence mâle du siècle, on en parle avec vous Marie Danet. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en psychologie du développement à Lille. Triste constat que celui des étudiantes qu'on a entendu dans le micro-trottoir. On est tellement stimulé par le rythme et la diversité des sujets sur les réseaux sociaux qu'une simple conversation entre amis ne suffit plus.
Alors ça va dépendre un petit peu du contexte et on a remarqué que parfois quand on est dans des relations pas très formelles, plutôt casual, on s'autorise plus facilement à prendre son portable pour faire autre chose pendant la conversation. Donc du coup, le contexte quand même a un rôle important à jouer sur le fait qu'on interrompe ou pas nos échanges.
Mais l'exemple de Cassandra qui est make-up artiste qui est intéressant, elle dit je réponds parce que c'est pour le travail et donc pour de l'argent. Donc oui, c'est plus important de répondre que de boire un verre. Qu'est-ce que ça dit aussi de notre rapport au travail? Est-ce que le travail est arrivé dans notre poche?
Alors ça peut dépendre du contexte là aussi, parce que on peut peut-être se dire que si Cassandra a du mal à joindre les deux bouts, ça va être important pour elle de répondre et de pas passer à côté d'une opportunité de travail. En fait, il y a une étude qui a montré que quand on donne une raison à l'autre pour interrompre la conversation, donc par exemple le fait de répondre à un texto ou à un appel, eh bien si la raison est jugée valable et importante, la personne va se sentir un peu moins mise à l'écart et un peu moins
Donc il faut
isolée.
Mentir quoi. Quand on a envie de regarder son portable avec quelqu'un, on lui dit « Alors là, excuse-moi,
c'est une urgence.
C'est le SAMU qui m'appelle, c'est voilà. important, je dois intervenir, même si vous n'êtes pas chirurgien. » Bon bref, c'est ça qu'il faut faire.
Voilà, c'est une petite astuce.
Manon.
On entendait dans le micro-trottoir des gens qui parlaient des rapports avec leurs amis. Je pense aussi aux applications de messagerie. En fait, maintenant, on est aussi tous connectés les uns avec les autres. Moi, je sais que, par exemple, avec certains de mes amis, on se dit « Ah non, mais on ne parle pas de ça maintenant par WhatsApp parce qu'on se voit dans 3 jours. Mmh. » Et du coup, en fait, si on se raconte tout maintenant, on n'aura plus rien à se dire.
Vous allez vraiment vous faire chier.
Ouais, voilà. Donc, il y a aussi ce rapport vraiment à l'hyperconnectivité via les messageries.
Alors en fait, ce qui est vrai que ce qu'on peut observer, c'est que les outils numériques sont énormément utilisés pour les relations sociales. D'ailleurs, souvent on dit à les ados, ils se parlent plus, etc. En fait, si ils se parlent, mais ils se parlent autrement. Et donc c'est pas forcément négatif parce que du coup, on peut aussi aborder certains sujets. De façon plus libre quand on n'est pas face à la personne, parce qu'on peut se dire je suis pas trop à l'aise d'en parler en face à face, peut-être que du coup via WhatsApp ou autre je vais me permettre d'être un peu plus cash. Et d'ailleurs on voit que des fois les échanges sont un peu plus directs.
C'est important de dire qu'il y a des bons côtés aussi, parce que là sinon on se rend pas compte de ça.
L'exemple de Louis qui avec sa compagne ont décidé d'interdire le portable à table, par exemple, est-ce qu'il faut se le dire dans un couple, est-ce qu'il faut poser ces limites là?
Alors, je pense qu'au sein de la famille, effectivement, mes couples, amis, etc., c'est bien d'avoir des espèces de petits plans, d'une petite hygiène de vie, de se dire, tel temps, tel moment, telle période, on va se dire que c'est pas forcément nécessaire d'avoir le téléphone à table. Et on a développé, par exemple, ce qu'on appelle les plans familiaux, où on se dit, alors c'est valable pour les parents et pour les enfants. Souvent, on le fait pour les enfants et les parents vont avoir tendance à passer un petit peu à la trappe. Sauf qu'en fait, il faut montrer l'exemple et de se dire, les enfants, les ados n'ont pas le droit de ramener le téléphone à table. Les parents non plus.
Ah oui, il faut suivre. Amis auditeurs, je vous en conjure, rien que le temps de notre émission, au moins mettez vos téléphones en mode avion, sauf évidemment si vous nous écoutez via votre téléphone, car là, ne le mettez pas en mode avion, ça serait cool. Vous manqueriez la suite de notre discussion sur la technoférence avec notre invitée Marie Danet. On va revenir sur la technoférence chez et vis-à-vis des tout petits enfants. Donner à manger à son bébé en consultant ses mails, par exemple, on n'y pense pas, mais c'est très mauvais pour le développement de bébé. On en parle juste après le Zoom Zoom Test et PLK avec les miens sur Inter.
Ouais, Quand j'étais petit, je voulais faire des poèmes. Au lieu de ça, j'ai fait que des problèmes. Au lieu de ça, j'ai revendu le pollen, la haine, rappé comme Wu-Tang Clan, remplir nos poches comme un Abu Dhabi. Blessure sur blessure comme un Abu Dhabi. Que Dieu le sait comme Ichou et Jackie, Zizou et Zazie, Grisou et Rami. J'suis dans la boîte, mais j'vais passer dedans. Pas d'avantage, j'suis pas assez blanc. Le bédo calme, il fait passer le temps. J'explique après si t'es assez grand. Mauvaise nouvelle, on est plus blasé. C'est électrique, on fait que taser. On s'attache plus, on fait que de passer. On se met ensemble, on fait que de casser. J'préfère rester dans mon coin. Non, j'suis pas loin, mais j'peux rien faire ici. Enquête sur enquête. À 25 ans, y'a des frères, qu'on gère la calvitie. En indépendant, on encule les gros. Peur de personne, y'a aucune négo. Moi, on a de chance, plus c'est beau. Chez nous, Dory, fume Nemo. Après, il fallait remettre les gants. J'ai tout changé, fallait refaire les plans. Adieu les rookies, on rentre chez les grands. On travaille plus fort et on serre les dents. On a mangé des murs, fait comme si tout allait. On est venus, ils nous ont dit du balai. On faisait que perdre pendant que toi tu gagnais. On a bossé pendant que toi tu parlais.
Haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens. La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens.
Ouais. Branché au monde comme le taxiphone, y'a pas d'essence, poteau, ça te siphonne. Je suis en pleine forme, je fais une sale season. En 2-3 heures, je fais 5-6 hommes. Je veux coffrer un max au cas où tout s'arrête. Ils faisaient les sourds, on criait tout ça l'aide. J'ai le seul moment, mais dis-moi où ça mène. Un gilet par balle au cas où sous ma laine. On vient du fond de la plongée sous-marine. Mon espoir est grand, mais en vrai tout l'abîme. On reste déterminé, tout pour la team. Tout pour la MIFA, ouais, tout pour la win. Pas pour les buts, tout le showbiz qu'on a ses pairs. Bourré sur le rond-point, je mets la caisse à l'équerre. Un round ou deux, tu vas finir à équerre. Depuis petit, je suis le plus fou et le plus déter. Tu fais des coups de pute, ok, c'est noté. Fin du showcase, j'ai fini menotté. Plus j'irai, plus la star de l'OP. Ils m'ont jeté, ils ont pas développé.
La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens. La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens.
France Inter, journée spéciale, smartphone, tout s'accro.
Oui, journée spéciale, très très beau jingle. Ah oui. Et vous moquez des productions, vous moquez des productions France Inter.
J'étais juste heureux de me dire que j'étais là, oui, dans une journée spéciale.
Oui, oui. Rapprochez-vous du monde de la moto, parce qu'à mon avis, vous allez vite y retourner. Journée spéciale, smartphone, comment dompter les écrans sur France Inter. Alors à ce stade, comment dompter les écrans, je ne sais pas, mais comment dompter Manon et Quentin, ça je sais, wow. Avec le Zoom Zoom Test.
J'ai eu mal.
On l'a dit, depuis le début de cette émission, Manon et Quentin, vous faites honte au concept même de notre journée spéciale, qui vise justement à ne pas utiliser notre portable au moins une journée. Vous, même aux toilettes que vous fréquentez, cela dit séparément, je le précise, vous restez agrippés à vos smartphones. Il y a un mot pour les gens comme vous, et ce mot, c'est quoi? La smartomanie?
Ça commence vite, hein.
La portablomanie? Ou la nomophobie?
Cool. C'est...
Vous avez choisi le seul mot qui n'a aucun lien.
Non, j'ai dit c'est, ça peut passer.
Ah.
Pour vous, Manon, c'est la smartomanie.
Oui, ça doit pas être
bonne
ça.
Réponse de Quentin.
Oui, oui, je pense.
Oui, vous voilà démasqué, misérable nomophobe. Le terme nomophobie a été inventé au cours d'une étude de 2008 menée par la UK Post Office. Étymologiquement, c'est la contraction de no mobile phone phobia, la peur de ne pas avoir de téléphone mobile. Pour l'anecdote, le choix du terme a été un peu controversé à l'époque car le grec ancien nomos signifie loi. Nomophobie pourrait donc signifier la peur des lois. Les chercheurs anglais ont donc demandé à l'autorité grecque suprême. Nikos Eliagas a donné son accord. Nomophobia a été validée. Mais attention, top! Je disais à l'instant que même dans les water, comme dit Cyril, vous ne lâchiez pas vos téléphones. Ce qui d'ailleurs vous a parfois joué des tours, comme la fois Quentin, vous aviez recroisé une vieille amie que vous aviez involontairement rappelé des toilettes quelques minutes plus tard, alors que vous étiez en pleine tourista. Bref, téléphoner aux toilettes passe encore, ça ne concerne que vous. Ça ne concerne que vous, je l'ai déjà fait. Mais le gros problème de notre époque, les amis, c'est que l'addiction au téléphone portable peut avoir des conséquences dramatiques pour les autres. D'après vous, Manon, Quentin, qu'est-ce qu'un smambi ? Quelqu'un que son smartphone rend somnambule ? Quelqu'un que son smartphone rend zombie? Ou quelqu'un que son smartphone rend irritable?
Ah non, c'est moi, je veux dire c'est.
Alors c'est bien parce que là, vous êtes. Il n'y en a pas un. Pas
la une B,
dedans.
Alors B.
Oui, oh bravo Manon, oh, magnifique. Oui, réponse B, non, le
bon
n'est pas validé. Quelqu'un que son portable rend irritable, ça s'appelle Manon Mariani. Le Robert, page 712. Un smombi, c'est un mot qu'on a été obligé de forger pour désigner ces personnes nombreuses qui vont et viennent dans nos rues, le regard rivé à leur smartphone. Je pourrais leur mettre une balle dans la nuque, déclare à leur propos le toujours très mesuré Cyril Lacarrière, quand, de par son adresse légendaire et ses gènes de pilote, il arrive à en éviter un au dernier moment avec son puissant scooter. Alors, Une balle dans la nuque, la sanction est peut-être un peu extrême, mais c'est vrai que le fait de regarder son portable quand on marche dans la rue, quand on traverse, est extrêmement accidentogène, à tel point que la loi a récemment changé. Selon vous, si vous causez un accident parce que vous étiez sur votre smartphone en tant que piéton, vous allez payer une amende de 22€, 85€ ou 0€, émoji doigt d'honneur à Cyril Lacarrière.
C'est.
Ah ouais, je pense que dans le code de la route, c'est.
Ouais.
C'est une bonne réponse, Manon.
Ah oui.
En France, malgré l'augmentation du nombre d'accidents liés aux piétons atteints de nomophobie, la loi reste muette. Pas de contravention prévue, c'est en Sardaigne qui vous en coûtera 22€ et à Hawaï, 85€ si on vous chope en état de récidive. Donc Manon, notez pour votre prochaine destination vacances, pas Hawaï. Mais attention, vous le savez, il y a pire que les accidents liés au portable, les accidents mortels liés au portable. Donc 99% sont liés à la volonté de quelqu'un de prendre un selfie au mauvais moment, au mauvais endroit. Ainsi, en 2014, dans l'état de Caroline du Nord, une femme va perdre le contrôle de sa voiture en voulant prendre un selfie. Et l'ironie du sort, c'est que ce qui l'a poussée à prendre ce selfie, c'est qu'elle a entendu à la radio ses numéros sortir à la Loterie Nationale, la chanson Happy de Pharrell Williams, ou son ex qui lui dédiait I Will Always Love You.
A.
B.
Bonne réponse de Quentin, lui. Oui, la radio diffusée Happy. Ce tube de Pharrell qui nous met immédiatement en joie et qui a donné à cette conductrice l'irrépressible envie de se prendre en selfie, tout sourire. Elle n'a pas vu le camion poubelle qui arrivait en sens inverse. Résultat, coup de volant, pylône, incendie, décès. Comment Cyril ? Balle dans la nuque ? Non, pas besoin. Ça s'est fait tout seul. Enfin, attention, top ! On le dit souvent. On le dit souvent. Le Mexique est un pays dangereux. Oui, mais avec des musiques rigolotes, ça passe.
Ouais, super.
Le Mexique est un pays dangereux, mais encore plus pour les influenceuses en quête du plus beau selfie. En 2017, accrochez-vous, que va-t-il selon vous arriver à ces deux jeunes mexicaines qui se disputaient pour savoir laquelle des deux ferait le selfie le plus étonnant en marge d'une course de chevaux. Elles vont descendre sur la piste et elles seront piétinées. Elles vont se reculer pour faire un panoramique et elles vont tomber dans le vide. Ou elles vont monter sur un camion pour prendre de la hauteur et elles vont être décapitées par un avion.
Bébé, non mais non.
C'est moi,
non,
je me
tente.
Moi je tente c'est.
Elles se font marcher dessus par les chevaux.
C'est Quentin qui remporte le quiz, évidemment. Ça, c'est un des pires effets spéciaux.
Gisela,
je pense que là, vraiment, tu t'es pas foulé. Alors voilà, vraiment, c'était parfait, nous dit notre réalisateur. Non. Ça a d'ailleurs valu le prix Darwin des morts les plus connes. Ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux amateurs de selfie. Ne jamais monter sur le toit d'un camion quand vous voyez que vous êtes près d'une piste d'atterrissage. Ça, vraiment, ça doit faire tilt. Là, ça n'a pas fait tilt. Ça a fait quick. Victoire de Quentin, lui. Magnifique victoire, Quentin.
Bien. Merci à tous.
Marie Danet est toujours avec nous, contre toute attente. En cette journée spéciale, smartphone, tout sacro, on zoome ensemble sur ce concept de technoférence quand la technologie devient un rempart aux relations humaines. Marie, je voulais revenir sur l'utilisation d'outils numériques chez les enfants, notamment les enfants en bas âge. Et je commençais en antenne à déblatérer sur mon cas personnel. Je m'en voulais beaucoup et je voulais culpabiliser les parents de ne pas suffisamment faire attention à leur usage du portable. Vous me dites, la solution, c'est pas ça. Il faut pas culpabiliser les parents.
Non, parce que finalement, parfois, les parents peuvent aussi utiliser leur téléphone portable parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont stressés, fatigués. Et à choisir entre un petit moment de technoférence et un parent qui hurle sur son enfant, ah, peut-être que du côté de la technoférence, ce sera peut-être moins néfaste pour la relation parent-enfant que d'avoir un parent qui va hurler sur son enfant. Quand on voit un parent justement qui est stressé, il peut aussi utiliser les smartphones pour essayer de chercher des sources de soutien auprès de proches, auprès des tips parentaux, etc. Et du coup, le fait de culpabiliser les parents, bah, ça les empêche d'avoir cette source de soutien potentiel. Donc, ce n'est pas non plus une bonne stratégie.
Alors, néanmoins, vous avez utilisé le mot « écran-sitter ». Utilisé parfois, c'est quand on met un téléphone dans les mains d'un bébé pour qu'il nous laisse tranquille. Moi, j'ai déjà été témoin de ça autour de moi, donc c'est quand même un problème qu'on peut souligner. On ne met pas un iPad à un bébé pour qu'il soit calme, qu'il ne pleure pas.
Clairement, en fait, les outils numériques, ça peut être de fabuleux outils pour passer des moments ensemble, partager des moments, des jeux, etc., une culture commune. Par contre, c'est vrai que pour les tout-petits, l'usage seul d'un outil numérique, que ce soit un téléphone, une tablette, ne va pas lui apporter quoi que ce soit et peut, au contraire, réduire en fait, ses interactions avec les autres.
Il y a un âge limite, pardon ?
Alors là, c'est toujours un petit peu la question. Par exemple, le Haut Conseil de Santé Publique recommande de pas d'usage de 3 ans tant que les conditions, enfin avant 3 ans, tant que les conditions ne sont pas réunies, autrement dit, tant que l'enfant n'est pas accompagné. Donc après, on sait aujourd'hui que bien sûr, les enfants utilisent seuls des outils numériques bien avant 3 ans et le tout, c'est de rester dans la modération, sachant que les outils numériques ne sont pas nécessaires au développement de l'enfant. S'ils les utilisent de temps en temps, c'est pas ça qui va complètement impacter leur développement, mais par contre, voilà, c'est important qu'ils aient d'autres activités à côté.
Pardon, une question me vient sur le fait que certains parents pourraient s'imaginer, il faut que mon enfant, très jeune, peu importe son âge, je lui donne un écran parce que c'est sa génération, le monde est comme ça aujourd'hui, il faut qu'il s'y mette très vite. Ça marche pas non plus parce que l'enfant il peut découvrir ça plus tard.
Alors déjà, les écrans sont extrêmement intuitifs, donc en fait, il suffit pas d'avoir beaucoup d'entraînement pour savoir les utiliser. Là où c'est important d'avoir un apprentissage, c'est sur la quantité d'utilisation et sur les contenus aussi. Et donc là, c'est les parents qui vont apprendre à guider leurs enfants en regardant avec eux, justement, pour leur dire, ça c'est plutôt intéressant, ça c'est moins intéressant. Et les applis qui sont dites éducatives, en fait, pour les trois quarts, ne le sont pas parce qu'en fait, elles sont bourrées de pop-up publicitaires qui, du coup, interrompent le processus d'apprentissage.
Pour quitter un peu le monde des enfants, est-ce qu'il y a des technoférences positives? Je pense aux gens qui se réfugient un peu dans le métro, dans le portable, principalement les femmes, pour éviter un regard insistant. Est-ce que notre rapport au téléphone, il est différent selon qu'on est dans le métro et chez nous, par exemple?
Alors, dans le métro, ce ne sera pas nécessairement de la technoférence, parce qu'en fait, on va plutôt parler de technoférence quand on est en interaction avec quelqu'un. Effectivement, on peut utiliser le téléphone. Quand on regarde des images des années 60, par exemple, les gens étaient tous avec leurs journaux dans le métro.
On ne parlait pas dans le métro, oui.
On ne parlait pas de technoférence.
Donc, voilà.
Oui, mais on ne parlait pas tout court.
Mais on ne parlait pas tout court. Disons qu'effectivement, déjà... souvent, les gens s'alarment de se dire, ah là, tout le monde est sur son écran.
On ne parle plus, on n'a jamais parlé dans le métro.
On lisait avant, et on lit toujours, en fait. Beaucoup de gens lisent sur leur téléphone.
Manon ? Pas du tout, pardon, j'ai cru que vous me faisiez un petit signe, mais en fait,
je validais le propos de Marie.
Probablement, voilà. Un clin d'œil amical. Le psychiatre Serge Tisseron, moi je reviens à mes enfants, c'est ma marotte, j'ai une petite fille de 2 ans, donc c'est ça qui m'intéresse. Le psychiatre Serge Tisseron déconseille carrément aux parents d'utiliser un smartphone devant leurs enfants. Dans le même temps, il a inventé une règle pour aider les parents à avoir un usage plus raisonné des écrans, le 3-6-9-12. Vous savez de quoi il s'agit ?
Oui, alors, déjà quelque chose, une règle qu'il a développée il y a un certain nombre d'années, et il est un petit peu revenu dessus. Disons, il les a fait évoluer. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas d'écran avant 3 ans. Maintenant, il est plutôt en train de dire pas d'écran seul avant 3 ans. C'est-à-dire qu'il fait aussi avec la réalité du quotidien. Et aujourd'hui, c'est complètement illusoire de dire à des parents votre enfant ne doit absolument pas être exposé aux écrans avant 3 ans, parce que c'est une injonction paradoxale. C'est complètement intenable. Pour un premier, éventuellement, peut-être les parents peuvent y arriver avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a plein de contextes sociaux et ils ne vont pas dire à tout le monde « ne sors pas de téléphone ». Voilà, dès qu'il y a un deuxième, alors là, la règle, elle saute.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi qu'on vit actuellement, parce qu'il y a deux générations, il y a peut-être la génération de nos parents qui, eux, sont un peu plus déconnectés, et les adultes, non, ils sont tout à fait connectés?
Ah, mais ils sont même beaucoup plus connectés que nous.
Ah, très bien. Ah, bah, expliquez-nous. Alors
du coup, il y a, quand on regarde sur le dernier baromètre numérique, qui date de 2023, eh bien, on s'aperçoit que le temps d'écran moyen des Français, il est tiré vers le haut par les sexagénaires, en fait, qui sont énormément sur les outils numériques. Et oui, ils regardent beaucoup de vidéos, ils passent beaucoup de temps dessus, et donc et parfois même les outils numériques sont donnés par les grands-parents.
Ah oui, en cadeau.
Alors, en cadeau ou quand les enfants sont gardés en week-end ou autre.
Eh bien, on en apprend de belles cet après-midi sur France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, vous allez être émerveillé, saisi, cueilli par la réponse que Yann Marguet apportera à une question que je lui aurais posée à brûle-pourpoint, sans le consulter en amont, sans qu'on se soit concerté. Et si jamais ça foire, ça sera la preuve que c'était vraiment pas concerté. Mais en attendant ce grand moment de radio qui n'excite que nous, que moi, je vous propose un détour du côté des réseaux sociaux. Mais vous allez voir, parce que au moment où ça va arriver, là vous allez comprendre et vous allez vous dire waouh.
On va refaire un jingle, je pense.
C'est fou, Manon. Même après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous pouvez pas vous empêcher d'être là avec votre téléphone. Parlez-nous des réseaux sociaux et de ce partenariat assez inattendu.
Un contrat entre un vidéaste et une plateforme. Pour la première fois, le plus gros youtubeur du monde, MrBeast, va présenter une émission de jeu non pas sur sa chaîne YouTube, mais sur la plateforme Prime Video. Une annonce, comme vous le disiez, inattendue et qui aurait même été improbable il y a encore quelques années, car MrBeast, c'est un média à lui tout seul. Il n'a pas besoin d'autres plateformes pour exister ou pour gagner de l'argent. Je vous fais son CV en rapide. À 25 ans, Jimmy Donaldson, de son vrai nom, est donc le youtubeur le plus suivi au monde, avec plus de 245 millions de followers sur sa chaîne. Ses vidéos génèrent jusqu'à 700 millions de dollars par an, et aujourd'hui, il est plus qu'une star d'internet, il règne dessus. Tous les youtubeurs du monde s'inspirent de ses contenus. En France, par exemple, je vous parle souvent des jeux de Squeezie et des autres, et bien, ça vient en grande partie de MrBeast, qui a bâti sa carrière sur des défis et des jeux à grande échelle sur sa chaîne. En 2021, il avait par exemple recréé le jeu de la série Squid Game, les morts en moins évidemment.
Ah oui,
et puis je précise qu'il est aussi très aimé du public car il reverse une grande partie de ses revenus à des associations caritatives. Bref, vous l'avez compris, collaborer avec MrBeast aujourd'hui c'est énorme, surtout que ses collaborations sont assez rares.
Alors qu'est-ce qu'il va faire avec Amazon ?
Eh bien il va présenter un jeu et le produire aussi pour la plateforme. Il l'a annoncé en grande pompe dans un message sur X. Il dit que ça va être le plus grand jeu de l'histoire avec plus de 1000 participants et surtout un prix de 5 millions de dollars. Un record du monde, car c'est le plus gros prix jamais proposé dans l'histoire de la télévision et du streaming. Alors pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations sur le concept, on sait juste que le jeu va s'appeler Beast Games et qu'il va se décliner en plusieurs épisodes. Et comme je le disais en début de chronique, ce qui est intéressant dans ce deal, c'est qu'il aurait été invraisemblable il y a encore quelques années, car les youtubeurs ne se mélangeaient pas avec les médias mainstream, voire ils les boudaient. Ils ont toujours revendiqué fièrement avoir leur propre public, leurs chiffres, leur contenu et surtout leur cible, les jeunes. Mais aujourd'hui, difficile pour eux de passer à côté du succès des plateformes, déjà parce qu'elles ont beaucoup d'argent à leur proposer pour produire des contenus à grande échelle et parce qu'elles leur permettent aussi de se renouveler. Et c'est d'autant plus intéressant alors que le milieu des créateurs devient de plus en plus compétitif, notamment avec la place que prend TikTok.
Ce qui explique que MrBeast a signé avec Amazon.
Exactement, et d'ailleurs il le dit lui-même dans le communiqué de presse, mon but est de prouver que les créateurs de contenu peuvent réussir sur d'autres plateformes que les réseaux sociaux. C'est donc un énorme coup pour la plateforme de Jeff Bezos. Car depuis un certain temps, Prime essaie d'attirer un public jeune en s'associant petit à petit avec des créateurs de contenu. En France, par exemple, ils l'ont fait en prenant Lena Situation dans leur jeu Celebrity Hunted ou avec le documentaire sur Squeezie. Ils ont aussi sorti deux autres docs sur le sujet influence sur le monde des influenceurs et celui sur le Viner Jérôme Jarre la semaine dernière dont je vous ai parlé. Leur stratégie est plutôt payante car ces contenus ont l'air de fonctionner. En tout cas, si on se fie au top 10 des programmes les plus visionnés sur Prime Video que Prime Video publie en temps réel, car évidemment la plateforme ne révèle pas ses chiffres d'audience. Donc, vous vous en doutez, signer avec une personnalité comme MrBeast, eh bien c'est le Graal. On parle quand même d'un créateur de contenu qui a plus d'abonnés sur YouTube que Prime Video dans le monde. La plateforme a d'ailleurs précisé que MrBeast avait aussi reçu une proposition d'un de leurs concurrents, mais qu'il avait préféré signer avec elle. J'ai envie de dire, si c'est Netflix qui doit être le cas, il doit s'en mordre les doigts, surtout qu'ils adorent les concepts de jeu. Mais c'est Prime qui a donc réussi à l'attirer. Et l'arrivée de MrBeast est un signal fort envoyé aux créateurs de contenu du monde entier, car forcément, c'est un exemple à suivre. Donc on peut s'attendre à une vague d'influenceurs qui débarquent sur Prime prochainement, à l'image de leur idole.
Merci Manon, et d'ailleurs, puisque vous en parlez, c'est encore sous embargo, mais je suis moi-même en égo avec Prime Video pour transposer le Zoom Zoom Test sur Prime, avec à la clé
génial.
Un jeu quasiment aussi bien doté que celui de MrBeast, puisque vous pourrez gagner un tote bag Blériot dédicacé par William et Christine.
C'est cadeau.
Restez avec nous. Zoom Zoom Zen continue avec Yann Marguet, juste après Justice et Tame Impala. One night, all night. Pas longue, Manon. We'll be right back.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Il est beau. Il est fort, il est intelligent, il joue au Lucernaire tous les vendredis et samedis, et c'est lui qui écrit désormais le lancement de ses chroniques. C'est plus vendeur, m'a-t-il expliqué. C'est Yann Marguet qui nous parle technoférence aujourd'hui.
Et oui Mathieu, cette scène, on l'a tous vécue. Hein. Vous êtes en train de raconter passionnément quelque chose à un collègue, vous y mettez du cœur, du rythme, du suspense même, hein, jusqu'à presque vous oubliez, et soudain, vous vous rendez compte que la personne est en train de vous palper les nichons. Ah non, pardon, ça c'est le cinéma français. Donc la personne est en train de regarder son téléphone. Vous venez d'être victime non pas de Jacques Doyon, mais de techno. Technoférence, l'irruption de la technologie dans une interaction humaine. La technoférence, ou l'art de la présence absente, hein, finalement, résumable par ce dialogue de couple. Non mais tu m'écoutes là ou t'es sur ton téléphone ? Oh mais je t'écoute, merde, c'est bon ! Ah ouais, alors qu'est-ce que je disais ? Bah que ils ont trouvé un vaccin contre le Covid. Voilà. Tu m'écoutes pas depuis 2021. Alors c'est pas la seule férence qui existe, évidemment. On pourrait citer la jobférence, par exemple. Ces moments fréquents où le travail s'immisce dans notre vie privée. La Clermont-Ferrance, l'influence qu'exerce le fait d'habiter à Clermont-Ferrand sur le bonheur, ou encore la Frometon-Ferrance, où quand Cyril Lacarrière interrompt le visionnage d'un épisode de Camping Paradis pendant 40 minutes pour aller boulotter du maroilles en répondant depuis la cuisine aux sollicitations de sa compagne restée patiemment sur le canapé du salon par ces mots « Oui, on a deux minutes ! Oh, c'est Ournac ! Il me donne envie de bouffer !» La technoférence elle-même n'a pas attendu l'arrivée des smartphones pour exister, puisque rappelez-vous Mathieu, notre génération voyait déjà en son temps la télévision fréquemment pointée du doigt pour être un facteur d'éloignement social. Alors que pardon, mais moi de la télé, j'en ai bouffé petit, et laissez-moi vous dire que j'ai quand même 4000 amis Facebook, hein. Sans compter que grâce à la télé, je connais le nom de tous les acteurs des séries AB en me basant uniquement sur le nom des personnages. Ah. Testez-moi Mathieu.
Lali.
Lali Ménian. Trop facile, un autre.
Giant Coucou.
Désir Bastaro. Vous voyez, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Surtout qu'une question qu'on doit se poser quand on évoque la facilité avec laquelle on peut être distrait par nos smartphones, c'est est-ce que finalement on n'a pas toujours attendu ça pour avoir un moyen de lutter contre la pire interférence qui soit, la chianférence. Écouter quelqu'un, mais quel enfer, en couple, se raconter sa journée, les enfants à la place de jeu. Maman, quoi ? Regarde, j'ai pris du sable. Mais évidemment que si on peut s'échapper de ça en scrollant du cesse-être sur l'Instagram de Sophie d'avant, on va le faire. Alors oui, d'accord, c'est pas bon pour le développement des enfants. Et oui, quand je vois un petit de 2 ans dans une poussette, les yeux rivés sur un téléphone portable, c'est une image qui me frappe. Bon, ça me frappera encore plus si tout d'un coup il a plein un autre bébé. Mais bon, j'ai appris à être déçu avec les gosses, c'est pas un problème. Et c'est vrai que c'est dur d'être légitime en tant que parent quand toi-même tu tweets sur ton portable tout en télétravaillant sur ton laptop, tout en gardant un œil sur BFM à la télé. En même temps, pourquoi ils nous imitent que quand on fait des conneries, les gosses aussi, hein ? Ah bah pour répéter les gros mots et s'envoyer de l'iPad pendant 4 heures, c'est tous Nicolas Canteloup, les mecs ! Mais quand il s'agit de nous imiter en payant les factures, il n'y en a plus un, ces bâtards, hein ! Alors faut mettre en place des stratégies, oh là là ! Je lisais là qu'à la maison, pour donner l'exemple, il fallait créer une boîte à téléphone, la baptiser en famille et même inviter les tout petits à y déposer leur smartphone jouet. Je sais pas comment vous dire, tout dans cette phrase me donne envie d'être stérile. Mais j'admets, voilà, j'admets, même en étant pour ma part un grand fan des écrans, je peux bien imaginer que ça remplace pas des parents dans le cœur et le cerveau de petits qui ont besoin d'attention pour grandir bien. Alors pour éviter les retards de développement, les parents multiplient les interactions des enfants avec les adultes. C'est pas moi qui le dis, c'est les psys et l'église catholique, mais pour des raisons moins nobles. Écoutez, se connecter à Internet... Ça, c'est les mots de la fin. Ouais. Se connecter à Internet, c'est une chose, mais se connecter aux autres, c'est... Ah, pardon.
Yann ? Ah bah j'avais dit, il est plus avec nous, c'est fini les parties. Merci Yann Marguet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci.
C'est un chien.
Marie
C'est un chien qui
c'est
tombe.
C'est un chouchou. Merci Marie Danet de nous avoir alerté sur les dangers de la technoférence. On rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en psychologie du développement à Lille et psychologue clinicienne. Merci à tous.
Merci à vous.
Merci les amis. Quentin, lui, Cyril Lacarrière, Manon Mariani qui a fait un premier pas important contre la technoférence en troquant son Apple Watch contre une bonne vieille montre Gucci. Ça va pas arranger la météo de son appli BNP qui vient de passer en alerte tempête.
C'était
Nelson.
C'était aussi cher, je tiens à le dire.
Exactly, Mathieu, ça souffle à Brest. Merci d'avoir renommé la tempête à mon nom. 189 km/h. Je vais pas m'arrêter, donc continuez.
Invitation haut de gamme de notre Nicolas Canteloup à nous, Quentin, lui. Merci à Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet, Sybille Bulot à la technique. C'était David Didouet-Black et à la réalisation Ghislain Fontana. On se retrouve demain 16h pour répondre à cette grande question. Les hommes peuvent-ils vraiment être féministes ? On zoomera sur la notion d'allié.